Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode à travers l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous examinons la deuxième partie du quatrième chapitre. Notre étude ne comprend que les versets 12 à 25, mais le récit est tellement dense que je ne vais pas en couvrir tous les aspects. Comme toujours, je vous recommande de lire par vous-même tranquillement et attentivement les sections que nous abordons dans ce podcast. Dans nos précédentes mini-études, nous avons lu comment Jésus avait été baptisé par Jean en Judée, dans le Jourdain, et avait été confirmé par Dieu comme son fils bien-aimé. Il a ensuite résisté à une attaque démoniaque massive sous la forme de multiples tentations. Aujourd'hui, nous suivrons Jésus lorsqu'il retournera en Galilée et s'installera à Capharnaüm à l'âge d'environ 30 ans. Matthieu note quelque chose de magnifique à ce stade. Il évoque une prophétie d'Isaïe, je cite. « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Fin de citation. À en croire quelques témoignages de l'époque, Capharnaüm était un endroit prospère, mais la région où Jésus s'est installé, c'est-à-dire la Galilée, avait très mauvaise réputation. Les Judéens méprisaient les Galiléens qui étaient, disait-on, peu instruits et peu cultivés. Il y avait beaucoup de préjugés à ce sujet et les habitants de Galilée étaient stigmatisés dans le reste du pays. Je parle de préjugés, mais en ce qui me concerne, il y a des endroits que je trouve moi aussi profondément tristes, sur lesquels plane comme une ombre. Les gens ont l'air frustrés, tristes, malades, et sans doute qu'un grand nombre d'entre eux est sans emploi et a du mal à joindre les deux bouts. Peut-être était-ce le cas en Galilée, je ne sais pas. En tout cas, les Galiléens étaient méprisés. Et c'est précisément cette région que Jésus choisit. Sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Vous vous rappelez sans doute des mots de Jean au début de son évangile, lorsqu'il parle de Jésus-Christ en tant que parole de Dieu. Je cite « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Dans le huitième chapitre de ce même évangile, Jésus se nomme lui-même la lumière du monde. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » C'est ce que nous devrions nous rappeler lorsque tout nous semble sombre, lourd, sans espoir et que la force nous manque. Car c'est dans cette obscurité même, dans notre obscurité, que Jésus veut briller. Ceux qui sont dans le noir sont peut-être méprisés par les hommes, mais ils ont la première place dans le cœur de Dieu. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Dans le monde, ce sont les forts qui ont la première place, ceux qui se croient être plus justes et plus malins que les autres. Mais c'est aux perdants, aux faibles, aux délaissés, aux humbles qu'il promet la victoire. Voici une première leçon que nous pouvons tirer de ce qui pourrait ressembler au premier abord à un détail et qui ne l'est pas. Mais allons plus loin. Jésus se déplace donc en Galilée comme une lumière éclairant les ténèbres. C'est le début de son ministère public. Et comme il marche le long de la rive du lac, il voit deux paires de frères dans leur bateau de pêche. Simon, celui qu'il surnommera Pierre, avec son frère André et Jacques avec son frère Jean. Jésus les connaissait déjà. Ils avaient été disciples de Jean-Baptiste. Mais maintenant, Jésus les appelle à le suivre. « Venez, suivez-moi, leur dit-il. » Ils laissent tout tomber et se joignent à lui. Quelque chose de fondamental avait changé depuis qu'ils avaient appris de la part de Jean-Baptiste la venue du Messie et que celui-ci les avait guidés vers Jésus. À l'époque, André avait dit à Simon en parlant de Jésus « Nous avons trouvé le Messie ». Ils avaient eu foi en ce que prêchait Jean-Baptiste. Dans un certain sens, ils étaient donc déjà croyants. Et en tant que tels, ils auraient pu rester où ils étaient, non ? Nous avons bien des millions de personnes qui sont chrétiens et qui ne quittent pour autant ni leur place de travail, ni le lieu où ils habitent. Mais pour Simon, André, Jacques et Jean, c'était différent. D'un moment à l'autre, il ne s'agissait plus d'une croyance théologique, mais d'une relation. Lorsque Jésus les appelle personnellement, ils sont tout à coup concernés. Il n'en va plus de foi uniquement, mais de relation surtout. Là aussi, nous pouvons nous poser la question. Croyons-nous en Christ comme nous croyons à l'existence de l'Amérique, ou avons-nous une relation avec lui? Est-ce que nous laissons la Bible nous interpeller, ou n'est-elle que source de connaissances? En tout cas, les premiers disciples semblent avoir été tellement touchés par la personne de Jésus qu'ils n'ont pas hésité une seconde à aller avec lui. La question ici peut être banale, mais je voudrais quand même nous la poser. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à tout laisser tomber lorsque nous savons que Jésus nous dit de faire quelque chose? Ne nous demandons-nous pas d'abord si c'est bien raisonnable? Et si c'est le bon moment? Et si ça ne pourrait pas se faire plus tard, différemment, ou même pas du tout? Malheureusement, je connais trop bien ce tiraillement intérieur, mais j'aimerais vous assurer que plus je vieillis et plus je réalise à quel point il est gratifiant de faire simplement ce que Jésus nous demande de faire. Je crois fermement que dans la vie de foi, en général, l'obéissance vient avant l'expérience. Dans le monde, c'est l'inverse. D'abord réfléchir, voir si ça marche, et si seulement tout nous convainc, passer à l'acte. Mais encore une fois, dans notre relation avec Jésus, l'obéissance doit précéder l'expérience. Il me semble que les quatre hommes aient déjà appris cette leçon, car leur obéissance est quand même très étonnante. Et après cet acte d'obéissance, ils vivront de belles expériences avec Jésus. Laissons-nous donc, nous aussi, interpeller par Jésus et suivons-le. Jésus a traversé toute la Galilée avec ses disciples, prêchant partout où il en avait l'occasion et accompli de nombreux miracles. Que pensez-vous que Jésus ait prêché? Matthieu le résume en utilisant les mêmes mots qu'il avait déjà utilisés pour Jean-Baptiste. Je cite « changez d'attitude car le royaume des cieux est proche » ou comme dit la traduction Darby « repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Quel sermon! Avez-vous déjà entendu un sermon pareil? Comment cela sonne-t-il à vos oreilles? Un peu abstrait, vieux jeu, culpabilisant? Peut-être difficile à comprendre aussi. Permettez-moi de vous raconter quelque chose à ce sujet. Comme vous pouvez vous en douter, j'aime écouter des podcasts. Dernièrement, j'écoutais plusieurs épisodes d'un prédicateur américain qui touche des millions et des millions de personnes avec ses messages. Je me suis demandé comment ça marchait. Et je n'ai pas remarqué tout de suite. Au début, tout me semblait juste et super agréable à écouter. Message simple, bien structuré, drôle et facile à mettre en pratique. Il m'a fallu un peu de temps pour découvrir ce qui clochait. Il ne dit pas « repentez-vous », mais « rapprochez-vous de Dieu ». Il ne parle pas de royaume des cieux, mais de récompense, succès, argent, notoriété, ici et maintenant. Il dit qu'être chrétien est amusant, comme une grande fête, et que Dieu prodigue toutes sortes de privilèges à ses enfants. Il dit « Venez à Jésus et vous passerez le meilleur moment de votre vie ». Quel contraste avec ce que nous dit le Christ. Jésus appelle à la repentance. À quand remonte la dernière fois que j'ai entendu un sermon à ce sujet? Se repentir, c'est se détourner de nos mauvaises habitudes et nous tourner de tout cœur vers Dieu. Cela signifie abandonner le mal et faire le bien, ou du moins essayer de toutes nos forces de le faire. Peut-être vous demandez-vous, de quoi devrais-je me repentir? Peut-être pour nos pensées malsaines, pour de l'envie, ou pour avoir répandu des rumeurs, pour notre paresse, pour notre égoïsme. chacun de nous doit faire son propre examen de conscience et demander à Dieu où il doit corriger le tir dans sa vie. Ce n'est qu'une fois que nous avons fait table rase de nos péchés que Dieu peut nous guider vers de nouveaux horizons. La deuxième partie du message de Jésus est « Le royaume des cieux est proche ». Voici un autre sujet qui, je pense, peut être assez difficile à comprendre. Qu'est-ce que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu? Je ne veux même pas savoir ce que donnerait un sondage à ce sujet. Ceux qui ne savent pas pourquoi nous fêtons Pâques ou Noël, comment comprendront-ils ce que c'est que le royaume des cieux? Eh bien, le royaume des cieux ou royaume de Dieu est partout là où la volonté de Dieu est faite. Lorsque nous prions le Notre Père, nous disons « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Lorsque Jésus prêche que le royaume des cieux est proche, il ne veut donc pas dire que la fin des temps va arriver de suite. Dans la compréhension juive, cela veut dire que l'accomplissement final du royaume viendra en son temps, selon la décision ferme de Dieu. Nous pouvons en apercevoir comme une ombre à chaque fois que nous nous alignons sur la volonté de Dieu. C'est donc en ce sens que Jésus a prêché. Il nous appelle à quitter les sentiers battus de nos mauvais choix et à avoir le courage de faire simplement la volonté de Dieu. Nous devons faire bon usage du temps que Dieu nous met à disposition, car il finira un jour ou l'autre par s'écouler. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Matthieu mentionne spécifiquement que Jésus a prêché dans les synagogues. Une synagogue, ce n'est pas simplement quelque chose comme une église pour les personnes de croyance juive. Une synagogue est un lieu où les croyants sont formés, où ils apprennent à comprendre les Écritures, où ils prient, où ils reçoivent un enseignement et où ils pratiquent le culte. Jésus n'a pas eu peur de s'adresser à eux, eux qui allaient un jour le rejeter et le livrer à la mort. Répandre le message de Dieu, telle était sa mission, et c'est ainsi qu'il l'a accompli. Matthieu nous dit que la popularité de Jésus a rapidement dépassé les frontières du pays. Des foules entières le suivaient, il guérissait les malades et libérait les possédés. Ces miracles, qui attiraient tant de monde, renforçaient son message. Et ce message est encore valable aujourd'hui. Tournons-nous donc vers celui qui est la lumière dans nos ténèbres, celui qui nous donne une espérance et nous mène à bon port. Que le Seigneur vous bénisse, vous ainsi que ceux qui vous sont chers. À la semaine prochaine, j'espère.